RMC.
Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts, morts.
C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est des meilleurs.
Monsieur, vous êtes un con.
After Paris.
Nicolas Jamain.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast After Paris avec cette semaine Roland Courbis. Salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Et Jimmy Brown, salut Jimmy.
Salut Nico, salut Roland, bonjour à tous. Salut
le Jimmy. PSG n'a donc pas réussi à battre Newcastle en Ligue des Champions ce mardi soir. Pourquoi ce pari-là a coincé au-delà des occasions manquées? Est-ce que le premier responsable n'est pas le coach parisien? Question. Luis Enrique a-t-il raté sa soirée? A-t-il raté son match? On en débat ensemble. Vous écoutez le podcast After Paris, c'est parti. C'est une compo qui a fait beaucoup parler avant le match, encore plus pendant le match, encore un peu plus après le match, après ce match nul face à Newcastle, un partout. La compo dessinée par Luis Enrique, je rappelle, j'en fais le détail, la doublette d'Danilo Skriniar, la titularisation de Kangin Lee au détriment de Vitinha, de Colomoni à la place de Gonzalo Ramos. Vous allez me dire si vous voyez autre chose également dans un instant, messieurs. Cette question, a-t-il manqué sa soirée? A-t-il manqué son match? Je parle de Luis Enrique, coach. Je connais déjà un peu ta réponse, on va la développer ensemble. Est-ce que tu penses que il est le responsable de la contre-performance du PSG?
Pas le seul.
Pas le seul, mais
évidemment, mais le premier, si on fait une liste, je dirais oui, à partir du moment où, en plus de ça, il était attendu au tournant, puisque le Paris Saint-Germain, si je ne dis pas de conneries, depuis 10-12 ans, je crois que c'est très rare qu'ils perdent 3 matchs dans la situation de poule. Et là, avec ce match raté, contrairement à ce qu'il a pu nous dire au match aller, on espérait, on n'attendait pas rebelote. Eh bien, on a eu rebelote avec, en plus de ça, heureusement, cette égalisation qui permet au Paris Saint-Germain d'encore, avec un bon Luis Enrique, la possibilité de gagner à Dortmund.
Qu'est-ce qui te choque le plus dans ce que j'ai décrit, la composition?
Tout ce que tu as dit.
Tout ça.
Oui, et même les changements. Quand, par exemple, tu penses que ton plan B, c'est de mettre Mbappé à la pointe de l'attaque dans un rôle de numéro 9. Tu me dirais que Mbappé, tu le mets en retrait d'un numéro 9 et ce seul numéro 9 de ton effectif, il s'appelle Ramos, pour pouvoir avoir la possibilité de prendre ses élans, de pouvoir faire des appels, mais que dans la construction, tous les joueurs qui vont jouer dans ces 30 derniers mètres de Newcastle, ils jouent dans un premier temps Ramos, dans un deuxième temps déviation de Ramos, et on a besoin, avec beaucoup de centres, et il y a eu beaucoup de centres, on a besoin d'un gars qui flaire les coups, qui fait semblant d'aller au deuxième pour aller au premier, qui fait semblant d'aller au premier pour aller au deuxième. Ça, c'est pas Mbappé, c'est pas Colomani. Donc c'est Ramos. Et faire rentrer Barcola, pourquoi pas, dans un... Mais plutôt que Ramos, c'est une invention. Démarrer avec le Coréen plutôt que Vitinha, je pensais que Vitinha avait eu une gastro l'après-midi ou un truc comme ça peut arriver. Il y a toute une liste d'incompréhensions, mais c'est certainement alors, nous et moi ben, qui sommes plus de bons dans cette époque-là. Et à ce moment-là, ben, je continuerai à regarder ce qu'on aurait pu ou ce qu'on aurait dû faire. Et là, il y a toute une liste, pour moi, d'erreurs. Mais les erreurs, tout le monde en fait.
Il a expliqué ses choix. D'abord, Jimmy, plus globalement, est-ce que tu estimes que Luis Enrique est le principal responsable?
Moi, je n'ai pas la compétence de Roland pour pouvoir juger les choix de Luis Enrique. Moi, celui qui m'a le plus interpellé, c'est la charnière centrale. C'est Danilo qui n'avait pas joué depuis un mois et qui est associé à Skriniar, alors qu'on a vu qu'à chaque fois qu'ils avaient été associés tous les deux, ça a été compliqué pour le PSG. Qu'ils ont encaissé ou pas, même à Brest, j'ai souvenir d'un match à Brest où ça avait été très laborieux. C'est une charnière centrale qui est très lourde. Où, en plus, ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, ça avait bien fonctionné. La compo de départ contre Monaco avait plutôt bien fonctionné. Ils avaient gagné 5-2. Il y avait ce choix de mettre Mukiele sur le côté gauche qui avait enchaîné en plus Montpellier, Reims, Monaco à ce poste-là où ça s'était pas trop mal passé. Ce qui permettait de recentrer Lucas Hernandez, d'avoir un des deux centraux qui a une qualité de relance longue qui permet aussi de soulager le PSG. Il ne l'a pas fait, il n'a pas fait ce choix-là. Il a fait le choix de reconstituer un couloir gauche peut-être entre Lucas Hernandez et Kylian Mbappé. Moi, j'ai été assez surpris par ça. Après, oui, évidemment qu'il a sa part de responsabilité, mais je pense qu'il y a eu aussi un certain nombre de défaillances individuelles des joueurs. Je veux dire, tu ne jouais pas contre une équipe extraordinaire hier soir. Il faut pas oublier que Newcastle avait une litanie d'absents, ils avaient une dizaine d'absents, que Eddie Howe sur une séquence, Roland en parle souvent, de matchs qui durent quasiment 100 minutes, où on fait appel aux bancs de touche, etc. au Paris Saint-Germain, on fait 5 changements. En face, il y avait 0 changement. Il n'y avait pas de solution de rechange sur le banc côté Newcastle. Tu as joué une équipe qui a fini carbo et tu n'as pas réussi à faire la différence avant cette 98e minute où tu marques sur pénalty. Et honnêtement, voilà, on va quand même se satisfaire de ce point-là parce qu'il change toute la lecture oui. de la fin de la phase de groupe. Mais moi, avant Luis Enrique, j'ai aussi envie de parler d'un certain nombre de défaillances, que ce soit au milieu de terrain, cette incapacité que ce soit Ugarte, Fabian Ruiz, Kanginli, même Vitinha quand il est rentré, a apporté cette passe qui fait le décalage vers l'avant. Tu n'as pas, et moi en fait je répète quelque chose en boucle depuis le début de saison, c'est que et j'ai hâte de voir Luis Enrique en fait s'adapter à son effectif. Je pense que Luis Enrique aujourd'hui au PSG, il a un effectif pour jouer bloc bas, pour partir vite en contre, avec Mbappé d'un côté, avec Dembélé de l'autre. C'est ça la force du PSG aujourd'hui, avec l'effectif qu'il a. Et lui, c'est tout le contraire. Il veut la possession à outrance. Il veut cette espèce de U là, qui fait que tu repasses de gauche à droite, tu fais le tour. Hier, tu avais l'impression, franchement, que tu pouvais. S'il n'y a pas ce pénalty bon. À la fin, tu as l'impression que tu peux jouer 8 heures, tu n'as pas marqué.
Lui, ce qu'il a voulu faire, ça fait partie de ses justifications hein, quant à sa composition. Il avait pour idée d'utiliser Danilo Pereira pour être meilleur à la relance, qu'il considère plus propre. De bloquer Almiron avec la vitesse de Lucas Hernandez, pourquoi pas, d'être un peu plus efficace offensivement avec un Kanginli qui l'est selon lui plus que Vitinha, voilà, enfin, ça peut tenir comme explication mon cher coach.
Comme explication, peut-être, évidemment, il manquerait plus que cet
entraîneur. Lucas Hernandez a fait plutôt un bon match.
Un entraîneur de très haut niveau dans sa carrière et tout, puisse se tromper avec des joueurs qui voient 24 heures sur 24 tous les jours. Mais on n'a quand même pas l'explication. La seule explication que je trouve, je suis désolé, si moi je fais autant d'erreurs dans l'époque où j'étais entraîneur, eh bien on me l'aurait pas pardonné. Je ne vois pas pourquoi je vais être indulgent. Quand par exemple, tu as la possibilité, et tu l'as essayé, et c'était une très bonne idée, d'avoir Mukiele, eh bien tu veux jouer à 4 derrière. Eh bien tu joues à 3 défensifs, et un offensif qui est Hakimi. Et si par exemple tu as Skriniar ou Danilo, parce que Skriniar ou Danilo, je ne sais pas qui c'est le meilleur ou le plus moyen. Donc Hernandez et à gauche Mukiele, Vitinha au milieu, tu as plus malheureusement le petit Warren, avec Ugarte dans un rôle de sentinelle et Ruiz, et après les 3 attaquants, mais en premier Ramos. Dans, comme l'a dit Jimmy, si par exemple tu as une équipe que tu vas être le plus souvent dans leurs 25 derniers mètres, il faut quand même un de ton effectif qui flaire les coups. Celui qui flaire le plus les coups, c'est Ramos. Tu ne peux pas te priver de Ramos pendant 88 minutes. C'est celui qui peut te flairer les coups sur un centre. Et la solution que tu as trouvée, c'est Mbappé à la pointe de cette attaque dans une équipe qui joue dans ses 25 derniers mètres. Eh bien, j'ai aucune explication. La seule explication que j'ai, c'est la méforme de Luis Enrique, qui dans ce match-là, comme au match aller, nous a fait rebelote. Il n'était pas inspiré du tout, point barre.
Il n'est pas responsable de la maladresse chronique de ses attaquants. Les stats, elles sont folles, Jimmy et coach. Quand 36 centres, 31 tirs, 7 cadrés, un seul but à l'arrivée.
Quand tu n'es pas inspiré, c'est justement ce qui s'est passé hier soir. Si, par exemple, tu avais le nez pour faire rentrer Barcola et que tu fais rentrer Barcola qui te rate 4 buts sur 5 occasions, et bien si tu ne regrettes pas de ne pas avoir fait Ramos, et bien c'est la faute à Barcola, alors c'est pas la faute à Enrique.
Après tu te dis, est-ce que Ramos il se serait procuré ces occasions-là, ou c'est quand même dans le profil de Barcola, tu vois, où il part sur le côté, etc. Moi j'ai pas particulièrement envie de défendre Barcola, j'ai pas compris son entrée aussi. Moi je rejoins Roland, effectivement on t'apprend souvent que quand tu dois jouer contre un bloc bas, t'as besoin d'avoir une espèce de pivot qui permet de garder le ballon, qui peut être là dans la surface, qui sent les coups, les deuxièmes ballon, etc. Et c'est vrai que c'est plus le profil de Ramos. Ce qui est étonnant, c'est de le voir rentrer aussi tard. Il a même fait rentrer Asensio avant lui. Alors après, on peut pas reprocher aussi à Luis Enrique de pas avoir tenté, puisqu'il finit avec 5 joueurs à vocation, 5 attaquants quasiment sur la fin de match. On finit avec Fabian Ruiz, défenseur central.
C'est pour ça que tu as le penalty aussi.
Oui, voilà, dans les derniers instants. Et on le sait, Roland le sait mieux que moi, c'est très compliqué de défendre, d'attaquer face à ces équipes qui sont ils étaient en 9-1, quoi, les joueurs de Newcastle. T'avais Isaac seul devant et t'avais 9 joueurs qui défendaient quasiment dans la surface sur la deuxième période. C'est ce qu'on a vu comme type de match.
Absolument.
Donc c'est compliqué, mais après, il n'y a pas eu d'inspiration individuelle. Tu attends d'un Kylian Mbappé qui est capitaine de cette équipe qui t'apporte, mais en première période, Il a fait les appels. Et après, c'est vrai que quand tu le mets dans l'axe, tu peux plus profiter de cette capacité d'appel qu'il a sur le côté et de rentrer.
De ses accélérations avec prise d'élan, puisqu'il n'a plus.
Il n'a plus d'élan.
Il ne peut pas prendre les élans.
C'est ça qui est compliqué aussi.
Et puis le manque de créativité, les garçons. On en a déjà parlé ensemble dans ce podcast. Pareil, il vous manque un milieu axial qui va pouvoir, par une élimination, un geste, une passe courte, longue, précise, trouver un attaquant. Ça n'a pas existé hier, les passes latérales systématiques de Fabien Ruiz, les passes arrière de Kang In-Lee. Mais le problème, on le connaît, il est sujet, là et ça ne va pas changer en réalité.
À ce sujet, on avait ce débat tout à l'heure dans la rédaction et on reprenait les propos d'Ancelotti et Roland qui disaient voilà, les joueurs, il faut leur laisser quand même, surtout les joueurs offensifs, un maximum de liberté quand ils ont le ballon. Quand on doit se replacer, c'est une chose, mais tu as l'impression que à force de donner trop de consignes, peut-être, Luis Enrique, il a fini par en brider quelques-uns. C'est-à-dire que le Ugarte qu'on avait vu en début de saison, on ne le retrouve plus. Il essaye d'en faire un numéro 8 qui est là, qui doit à la fois récupérer, créer, et on sent que dans la création, il n'y arrive pas forcément, que c'est très stéréotypé. Fabien Ruiz, il n'arrive pas à faire cette passe, ce décalage vers l'avant. Dembélé, il reste bien à sa position, accroché, couloir droit, systématiquement, ou... Ça manque peut-être de permutation aussi, je sais pas, le schéma il est très établi, Luis Enrique il a une idée en tête, alors après encore une fois, Luis Enrique,
c'est un marionnettiste.
Il est arrivé depuis 4 mois, la saison elle vient de commencer, et on verra, la lecture de la saison elle va changer en fonction du dernier match à Dortmund, si tu gagnes à Dortmund et que tu finis en tête de la première partie de saison en Ligue 1,
si on a un bon Luis Enrique inspiré, moi, je vois le Paris Saint-Germain gagner à Dortmund.
C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir d'avis définitif aujourd'hui après un cinquième match de Ligue des Champions. Cette poule, elle est tellement dingue, elle est tellement ouverte jusqu'à la dernière journée, comme certains l'avaient annoncé.
T'as quand même pas un avis sur la qualité, les contours de l'effectif parisien cette saison.
Mais
vous avez un avis quand même, les
moi,
gars.
Moi, mon avis,
on a des profils de joueurs très clairs.
Bah oui, moi, mon avis, celui que je donne depuis le début, c'est qu'on a une équipe au Paris Saint-Germain pour jouer la contre-attaque, pour jouer la transition, pour jouer bloc-bas et partir vite devant avec les profils de joueurs que t'as. Pas pour être dans une possession à outrance comme il a pu le faire avec l'équipe d'Espagne, comme elle a pu le faire avec le Barça. Après, il ne faut pas non plus négliger la capacité d'adaptation que peut avoir Luis Enrique. On se rappelle, encore une fois, on donne souvent cet exemple, mais en 2015 avec le Barça, il change. Il ne fait pas de 4-3-3 traditionnel du Barça. Il passe à 3 derrière, il joue en 3-4-3. Il est capable d'évoluer, Luis Enrique, et on va voir dans les prochaines semaines, qui vont être plus que jamais décisives, ce rendez-vous dans 15 jours maintenant contre Dortmund, il donnera une lecture claire de la saison parisienne. Parce qu'encore une fois, moi je fais partie de ceux qui pensent que si le PSG est reversé en Ligue Europa, ce serait un terrible échec pour le projet parisien.
Moi, j'y pense même pas, ça.
À condition.
Moi, je pense que le Paris Saint-Germain a l'effectif avec la possibilité de récupérer une bonne recrue renfort là au mois de décembre pour la deuxième partie, mais faire par exemple ce qu'a fait l'Inter la saison dernière, ben je pense que le Paris Saint-Germain est capable de faire ça avec l'effectif de Paris Saint-Germain. Moi je m'imagine.
Quand tu veux dire l'Inter, c'est quoi, de faire une finale?
Bah oui.
Oui, après ça va dépendre de ton tirage au sort. On rappelle le tirage au sort qui avait été très clément.
Oui, mais là, de deux choses de l'une, ou tu n'es pas qualifié dans les deux, ou tu termines premier.
Eh ben, oui, ouais, c'est sûr que si tu gagnes, rappeler la situation comptable.
Un match nul, si par exemple, voilà. Milan, enfin, bref, mais bon, moi je considère le Paris Saint-Germain bat Dortmund et le Paris Saint-Germain double Dortmund et dans le tirage au sort, mais il se retrouvera pour une fois sur les trois dernières années ou deux dernières années, mais dans une situation de recevoir au match retour. Et de ne pas se taper le Real Madrid et le Bayern de Munich. Donc là, pour moi, cette possibilité-là, elle existe.
Et si on se projette un tout petit peu sur le match de Dortmund, qui va être le match qui va catalyser l'attention de tout le monde là, sur les 15 prochains jours, peut-être que le jeu du Borussia Dortmund correspond aussi mieux au PSG. C'est-à-dire que c'est une attaque qui c'est une équipe qui ouvre beaucoup le jeu, Dortmund. Et il va y avoir des espaces à exploiter pour le PSG, il va falloir être fort sur ces phases de transition.
Oui, puis bon, on n'est pas quand même dans un match dramatique côté Paris Saint-Germain, oui. Mais côté Dortmund, dans ce stade-là, avec ce mur qui est impressionnant et tout, on a un Dortmund qui est déjà qualifié. C'est totalement
mais qui voudra quand même terminer premier.
Ouais, d'accord.
Ça compte.
Mais,
hein.
mais ça ne fait rien. Tu n'as pas la même angoisse et tu n'as pas quand même le même problème dans la préparation du match, dans ton cerveau. Tu as la possibilité de faire un bon match et la possibilité aussi que le Paris Saint-Germain en contre puisse être un adversaire plus que redoutable.
Et on sera là pour débriefer ou non la qualification ou non du PSG pour les huitièmes de finale des champions. Tiens, cette information, notamment RMC Sport, hein, tu parlais de Mercato tout à l'heure, coach, hein, le PSG envisage de se renforcer. à court ou moyen terme. Il y a une piste qui revient avec insistance, c'est celle de Gabriel Moscardo, un jeune Brésilien, très talentueux, milieu de terrain, costaud. Voilà, plus d'informations sur le site rmsport.fr. C'est terminé pour ce podcast After Paris. Merci coach, merci
Salut les amis. Salut
à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine à tous.
RMC After Paris.